C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur LFM.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de C'est pas du vent, alors que nous commémorons le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl et les 5 ans de Fukushima. Nous nous interrogeons sur le nucléaire en France. Nos centrales vieillissantes sont-elles sûres? Les réacteurs peuvent-ils être prolongés avec des normes de sûreté rehaussées? Est-on à l'abri d'une catastrophe nucléaire? Et pour répondre à toutes ces questions, nous sommes toujours avec nos invités. Michel Rivasi, député européenne Europe Écologie et Les Verts. Roland Desbordes, le président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. François Damerval, conseiller régional d'Île-de-France et ancien assistant parlementaire de Corinne Lepage. Et Jean-Baptiste Renaud, journaliste, auteur du documentaire Nucléaire, la politique du mensonge, diffusé sur Canal+.
J'ai donc considéré que nous devions avoir un objectif de long terme. C'est-à-dire garder le nucléaire comme source principale de production de l'électricité, mais réduire sa part à mesure que les énergies renouvelables allaient être stimulées et relevées. 50% de production d'électricité de source nucléaire à l'horizon 2025. Nous sommes à 75%. Et donc, je ferai l'effort pour que les énergies renouvelables soient considérablement développées.
La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016, dans des conditions qui garantiront la sécurité des approvisionnements de cette région, la reconversion du site et la préservation de tous les emplois. Nous devons même en faire un exemple de démantèlement réussi, de façon à ce que les centrales qui viendront à expiration dans de nombreux pays du monde et qui appelleront des technologies maîtrisées puisse être là encore une opportunité pour l'industrie nucléaire française.
Vous avez reconnu la voix du président de la République, François Hollande. Alors, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille en France, vous semble-t-elle réellement réalisable d'ici 2016, comme le souhaite François Hollande, François Damerval?
Alors non. Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que il y a un mode de fonctionnement qui est prévu par la loi et garanti par la loi. En fait, je suis limite presque à dire que je ne souhaite pas la fermeture de la centrale de Fessenheim parce que le seul moyen qu'elle soit fermée avant la fin de l'année, c'est qu'il y ait un accident nucléaire sur la centrale. Parce que juridiquement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Un dossier pour fermer une centrale nucléaire, c'est 2 ans. Ou alors c'est une décision de la part d'EDF et EDF ne prendra pas cette décision puisque la centrale de Fessenheim a cette particularité de ne pas être que française, elle a des capitaux qui sont allemands et suisses. Et donc si vous avez une fermeture de la centrale, il faut une indemnisation des 3 parties que sont EDF et les énergéticiens allemands et suisses pour dédommager le manque à gagner qu'aurait l'exploitant sur ce sujet. Donc si c'est une décision unilatérale de l'État de fermer cette centrale, par décret, il faudra un système d'indemnisation et l'indemnisation a été évaluée à peu près 5 milliards. Qui prendra aujourd'hui en charge les 5 milliards pour la fermeture de la centrale de Fessenheim? En plus, ce système de décret fait que tout ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire, c'est-à-dire qu'un nouveau président nouvellement élu en 2017 pourrait très facilement revenir sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et donc derrière, ce serait un enjeu électoral qui serait pas sain. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir un débat de fond sur les questions économiques, sur le nucléaire. Et si les écologistes ont eu cette constance de parler de la sécurité depuis le début du programme électronucléaire, on a commencé à avoir le débat sur la question du nucléaire quand il y a un certain nombre de zéros qui sont arrivés.
Michel Rivasi, vous partagez l'analyse de François Damerval?
Oui, je la partage, mais alors c'est plus vicieux que ça. Parce qu'on a quand même un président de la République qui est incroyable. Il nous avait promis la fermeture en 2016, il n'a rien fait en amont. Comme l'a dit M. Damerval, il faut l'anticiper. Or, il va faire un décret différé. C'est-à-dire qu'effectivement, il va faire un décret en disant « on arrêtera la centrale ». Alors certainement, lorsqu'ils vont ouvrir Flamanville, c'est-à-dire le nouveau EPR, vous savez, qui est en construction à Flamanville, qui est hyper coûteux et assez catastrophique d'un point de vue technologique. Donc on ne sait même pas quand est-ce qu'il va ouvrir. Mais pour l'affichage, il va dire « on va faire un décret différé pour l'arrêt de Fessenheim ». Et vis-à-vis de la promesse avec les écologistes, il ne la tient pas, parce que s'il y a un changement de gouvernement, il promet 2018, mais il ne sera plus là, François Hollande. Donc s'il y a un prochain gouvernement, ben, ils ne vont pas l'arrêter. Et qui peut l'arrêter? C'est l'autorité de sûreté nucléaire. Or, elle a redonné pour 10 ans son aval pour la reconduction de ce réacteur. On n'est pas du tout dans le respect du changement entre les 75 et les 50% de la réduction du nucléaire pour la fabrication d'électricité. On n'a toujours fermé aucun réacteur. La Cour des comptes nous indique que d'ici 2025, il fallait fermer autour de 20 réacteurs. On n'en a toujours pas un qui est fermé. Et on n'a aucune volonté politique pour les fermer.
On parle de fermeture ou de démantèlement. La différence est quand même de taille. Il faut peut-être rappeler que dans le monde, une seule centrale nucléaire a été complètement démantelée. Elle se trouvait aux États-Unis, dans l'État du Maine. Son démantèlement a pris 8 ans, de 97 à 2005. Et qu'il y a toujours la question des déchets. Donc, quand on parle de la fermeture de Fessenheim, est-ce qu'on parle de fermeture, de démantèlement? Et est-ce que ça règle le problème, sachant qu'il reste d'autres centrales nucléaires en France?
Bon, il y a d'abord fermeture et après démantèlement. Ce sont des procédures qui sont longues, qui sont instruites par l'autorité de sûreté nucléaire et qui, on l'a bien vu sur Tricastin, parce qu'on parle des centrales, mais vous avez des tas d'autres installations du cycle du combustible. Par exemple, l'usine d'enrichissement de l'uranium Eurodif, ou Georges Besse 1, a été arrêtée en 2013. Elle a son dossier de démantèlement en cours d'instruction par l'autorité de sûreté nucléaire. On sait que ça prend des années, ça, avant qu'on attaque réellement le démantèlement. Mais le gros problème de démantèlement, c'est effectivement, vous l'avez signalé, c'est les déchets qui sont générés. Et là, on n'a pas de solution. Et la tentation qui est annoncée par les exploitants et par l'IRSN, moi je suis désolé quand l'IRSN, qui est l'expert de l'État, qui est censé nous informer et nous protéger, n'avait rien fait sur la Loire qu'on parlait dans la première émission, n'avait rien fait. C'est toujours après coup qu'ils arrivent. Bon, là l'IRSN dit il faudrait étudier la possibilité de recycler, vous savez, par l'économie circulaire, les déchets radioactifs issus du démantèlement dans le domaine public. Moi, je suis totalement choqué qu'un expert puisse prendre cette position. Qui va gagner? Ben, évidemment, c'est là où ça coûte le moins cher. Or, il y a des coûts annoncés pour le démantèlement, et la Cour des comptes l'a très bien travaillé là-dessus, qui sont totalement sous-évalués en France. Et je fais la différence entre la sûreté nucléaire post-Fukushima, c'est ce qu'on a tiré comme leçon de Fukushima, ça a été rappelé par Michel Rivasi, séisme, inondation. On n'a pas évoqué l'acte terroriste, qu'il faudrait évidemment imaginer aussi, malheureusement.
Bah, on peut imaginer un acte terroriste, on peut se poser des questions sur ces fameux drones qui survolaient les centrales nucléaires françaises. Se poser plein de questions, effectivement.
Voilà. Alors, officiellement, ça, c'est hors compétence de l'autorité de sûreté nucléaire. Ça fait partie de la défense nationale. On a constaté que nous avons, sur notre parc de centrales nucléaires, des gros travaux à faire qui sont réel et qui met en jeu vraiment la sûreté. Là, on a un nucléaire qu'on reconnaît comme étant pas au niveau optimum, je parle pas de perfection, mais au niveau optimum de sûreté. C'est la leçon de Fukushima et on continue à tourner.
Alors, vous parliez de rénovation, Roland Desbordes, et justement, la rénovation de 34 des 58 centrales va coûter beaucoup d'argent. Vous en parlez dans votre documentaire, Jean-Baptiste Renaud. On y voit Henri Proglio, PDG d'EDF de 2009 à 2014, qui déclare à l'Assemblée nationale en mai 2014 que le renouvellement du parc nucléaire français coûtera environ 55 milliards d'euros. Un chiffre que vous remettez en cause.
C'est pas que moi, c'est pas seulement moi qui le remets en cause.
Dans le documentaire,
dans le documentaire, c'était, il a été annoncé avec fracas parce que dans son intervention, il dit ce chiffre a été calculé, recalculé, vérifié, c'est bien 55 milliards.
En fait, c'est sur une période très courte.
Voilà, ça, ces 55 milliards d'euros là, c'est pour ce que EDF appelle le grand carénage, qui est donc ce grand programme de rénovation. Il se trouve que juste après son intervention, la Cour des comptes avait fait ses calculs elle-même et arrivait déjà à 110 milliards. Et non pas 55, qui était pile le double. D'une manière générale, il y a un très gros problème d'évaluation des coûts, que ce soit pour le grand carénage, que ce soit pour l'EPR ou pour d'autres projets. Et à chaque fois, EDF a sous-estimé les coûts. Donc là, le coût du grand carénage ou le coût du démantèlement, il y a de très fortes chances de penser qu'ils sont aussi sous-évalués et largement sous-évalués.
François Damerval, c'est un peu le grand paradoxe du nucléaire français. On a besoin de beaucoup d'argent pour rénover les centrales. On a besoin de beaucoup d'argent pour en démanteler certaines. En même temps, EDF s'est endetté dans des chantiers titanesques, que ce soit en Finlande ou à Flamanville. Et c'est une entreprise qui est en mauvaise santé financièrement. Comment on finance tout ça ?
Alors,
est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement?
C'est une entreprise qui est en mauvaise santé parce que...
Le canard enchaîné parlait de 37 milliards de déficit, je crois.
Il y a eu des choix politiques qui ont été franchement mal faits. Et il faut reconnaître en cela aux politiques le fait de ne pas avoir assuré sa capacité de suivi d'une entreprise publique détenue à 85% par l'État. Donc à un moment, il faudra reconnaître aussi les responsabilités de chacun, puisque le fait de ne pas reconnaître les coûts cachés, les coûts induits du nucléaire, que ce soit l'assurance qui n'est pas provisionnée, et j'engage tous les auditeurs à aller voir leur contrat d'assurance maison, le nucléaire n'est pas couvert en cas de catastrophe. Que ce soit le démantèlement des centrales provisionnées à 15% du montant d'investissement, et quand on a les 7 centrales dans le Maine, où c'est 18% du coût d'investissement des démantelés à la dynamite, on comprend bien que sur un territoire européen avec les normes européennes, c'est strictement impossible de tenir les 15%. C'est l'enfouissement des déchets nucléaires. On a imposé à Bure, aux pauvres gens de Bure, de prendre directement sur la tête le fait d'avoir, sous le sol d'ailleurs, d'avoir ce site d'enfouissement de déchets nucléaires qui n'est pas provisionné. Et ça m'étonnerait que, vu la dette d'EDF, EDF veuille mettre un copec là-dedans. On a, sur Areva, la problématique existe depuis 2005. Pourquoi ? Parce que depuis 2005, on sait très bien que le seul contrat qu'avait de retraitement Areva et qui lui permettait de survivre, c'était un contrat qui arrivait par EDF et où on avait imposé à EDF un versement d'un milliard à destination d'Areva. Donc cette problématique de l'argent est une problématique qu'on peut résoudre assez facilement. Parce que dans notre malheur, on a quand même une chance. On a certes une électricité qui est pas chère, quand on compare au niveau européen, c'est-à-dire dans la moyenne des prix européens.
Attention à ce que vous dites, parce que Jean-Baptiste Renaud nous a prouvé le contraire. L'électricité a augmenté de 20% en 5 ans.
Mais c'est pas tant la question du coût unitaire, moi, qui me pose problème.
C'est la comparaison avec les autres membres de l'Union européenne.
Puis surtout, c'est la comparaison, quand vous faites votre comparaison, moi, ce qui m'intéresse, c'est la facture que paye le consommateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on consomme 40% de plus qu'un consommateur allemand, forcément, on peut avoir un coût unitaire beaucoup plus bas. La facture, au final, est quand même toujours plus chère que celle du ménage allemand, etc. Donc, quand on prend cette comparaison, prenons la question de la consommation et on a une possibilité de résoudre très vite la problématique nucléaire. Ça s'appelle l'efficacité énergétique.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Your feet, take you home with me, put you in my house, boom, 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 ow, 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 I love to see you strut, up and down the floor, when you're talking to me. Baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Walk that walk. Walk that walk.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons du nucléaire en France avec nos invités. Roland Desbordes, président de la CRIRAD, Michel Rivasi, député européen Europe Écologie Les Verts, François Damerval, conseiller régional d'Île-de-France et Jean-Baptiste Renaud, journaliste, auteur du documentaire Nucléaire, la politique du mensonge, diffusé sur Canal+. Alors, un autre problème quand on parle du nucléaire, évidemment, c'est celui des déchets radioactifs. Selon EDF, ils sont rigoureusement gérés, triés et stockés de façon sûre. Il y a une scène insensée dans votre film, Jean-Baptiste Renaud, où Anne Lauvergeon, alors à la tête d'Areva, déclare que l'ensemble des déchets de 30 ans d'exploitation du parc nucléaire français tient dans une simple piscine olympique. Vous avez refait le calcul, vous n'avez pas trouvé la même chose.
Et tout dépend de quoi on parle. Anne Lauvergeon mentionne une piscine olympique dans une déclaration qui a fait un peu date. Une piscine olympique, c'est éventuellement ce que peut contenir effectivement les déchets vitrifiés, c'est donc les déchets les plus radioactifs, ceux qui sont aujourd'hui stockés à La Hague, et c'est ceux-là qui iront peut-être un jour à Bure. Sauf que Anne Lauvergeon oublie des dizaines de milliers de tonnes de déchets qui existent déjà, qui sont déjà constitués, qui ne sont pas virtuels. Et donc nous, en faisant le calcul, on ne tombe pas sur une piscine olympique, mais plutôt sur 180 piscines olympiques.
Bah, la nuance est de taille quand même.
Voilà, la nuance est de taille, c'est parce que l'industrie a tendance à oublier beaucoup de ses déchets, voire la grande majorité de ses déchets.
Là, le problème, c'est que EDF affirme que ce sont des déchets recyclables. Certes, ils le sont, sauf qu'ils ne sont pas recyclés. Et donc, il faut les stocker. Et c'est là aussi qu'est le problème.
C'est une des découvertes de mon documentaire, de mon enquête. L'usine de La Hague, qui est présentée comme l'usine de recyclage du nucléaire français, quand on s'intéresse un peu à ce qui s'y passe, quand une barre de combustible arrive d'une centrale, une barre de combustible qui a usagé, qui a servi, elle arrive à La Hague, et quand elle va être retraitée, c'est ce que dit Areva, le retraitement, ça va consister à séparer en plusieurs éléments. Donc, on va avoir à peu près 4% de cette barre qui termine en déchets vitrifiés. Ce sont des déchets très radioactifs qui sont gardés à La Hague avant d'être envoyés éventuellement un jour à Bure. Il y a 1% de plutonium qui est théoriquement réutilisé pour fabriquer un nouveau combustible qui est le MOX. Et là, vous allez me dire, il reste 95%. Et bien, les 95%, ils sont retraités sous forme d'uranium appauvri, ce qu'Areva appelle de l'uranium de retraitement. Et ça, techniquement, aujourd'hui, c'est un déchet. Pourquoi c'est un déchet? Parce que cet uranium de retraitement, il attend dans des hangars, sur le site du Tricastin, dans la Drôme. Cet uranium de retraitement, il n'est pas utilisé aujourd'hui, et il ne le sera pas, à moins qu'une quatrième génération de réacteurs nucléaires soit construite. Il ne sera jamais utilisé, et ça, ce sont des déchets qui ne sont pas mentionnés, et nulle part.
Roland Desbordes, oui. En quoi c'est ouais. Le stockage de ces déchets pose problème?
Sur les déchets, moi je suis scandalisé quand vous avez sur le site internet de Areva, EDF, etc. Sur EDF par exemple, sur le combustible usé, 96% recyclable. Nous on a fait les calculs, réellement c'est de l'ordre de 1% qui est recyclé. Donc entre le recyclable et le recyclé, on roule tout le monde dans la farine, ça c'est scandaleux. On ne comptabilise que quelques pourcents des déchets réellement produits. Et nous, les autres déchets, vous les trouvez où? Ben, par exemple, sur les anciennes mines d'uranium, là on en a 53, officiellement, 53 millions de tonnes en France, et qui sont aujourd'hui dans un étang quelque part, ou dans le Limousin, etc., en Vendée, etc. Voilà la réalité. Alors, moi j'en ai assez qu'on ne mette l'accent que sur ces déchets-là, qui représentent des petits volumes de haute radioactivité, mais que, a priori, on ne retrouvera pas dans notre environnement, et que tous les autres déchets produits, et ceux du carbone 14, qu'on va se retrouver sur le démantèlement des vieux réacteurs, etc., etc. Non, on ne travaille pas là-dessus. Et là, tout l'argent est mis sur quelques pourcents pour pouvoir dire un jour, ben ça y est, on a bouclé la boucle. Boucler la boucle, ça veut dire qu'on a trouvé la solution pour les déchets du combustible. Mais moi, il faudrait pas qu'on oublie tous les autres. Et ceux du démantèlement à venir, ceux-là, pour moi, c'est ceux-là qui vont vraiment encore poser le plus de problèmes. C'est pourquoi? Parce que la tentation de les recycler, l'envie est très très forte, hein, sur Tricastin. Vous avez Georges Besse 1, donc 150 000 tonnes de ferraille faiblement contaminées, 15 tours Eiffel, hein, c'est 15 tours Eiffel ça. Eh bien, l'envie de l'exploitant et des syndicats d'Areva, c'est de créer une fonderie pour les recycler dans le domaine public. C'est ça la réalité. Parce que, évidemment, l'exploitant a tout à y gagner, et pour les syndicat, ça veut dire quelques emplois à la clé. Nous, on s'est déjà bagarré là-dessus, et ça, on n'en veut pas, c'est clair.
Jean-Baptiste Renaud, au-delà de ce que disait Roland Desbordes, se pose également le problème des risques de ces déchets nucléaires, avec les fameuses fuites dont vous parlez dans votre documentaire. EDF réfute les accusations, elle refuse le terme de fuite pour parler de relâchement, et là, on comprend qui pinaille sur le vocabulaire, finalement.
Oui, c'est un site qui est géré par l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, qui se trouve juste au bout de l'usine de la Hague, et qui a été l'un des premiers sites où, sur lesquels on a entreposé des déchets nucléaires. Je dis entreposé pour être gentil, parce qu'ils ont plutôt été balancés là, sur le site d'un ancien marais d'ailleurs, qui était encore une riche idée. Et aujourd'hui, c'est l'un des seuls sites, avec un autre dans l'Aube, qui contient des déchets nucléaires, qui stocke des déchets nucléaires, ça s'appelle le centre de stockage de la Manche. Et ce centre de stockage de la Manche, effectivement, il relâche dans l'environnement, c'est ce que dit l'ANDRA, du tritium, qui est de l'hydrogène radioactif. Et pour faire admettre à l'ANDRA, qui gère ce site, que ce sont des fuites dans l'environnement, puisque très concrètement, un élément radioactif non présent dans l'environnement, non naturel, se retrouve dans des cours d'eau, dans des nappes phréatiques, autour du centre de stockage de la Manche, c'est quasiment impossible. L'ANDRA, qui gère ce site, va vous dire ce sont des relâchements tout à fait naturels, et sous-entendu, vous n'y connaissez rien, c'est beaucoup trop compliqué à comprendre, et un relâchement et une fuite n'ont aucun rapport. Donc le téléspectateur et les citoyens jugeront, mais c'est quelque chose qui est assez souvent mis en avant dans le nucléaire. Derrière des mots de vocabulaire, souvent, on cache pas mal d'autres approximations, voire des mensonges.
François Damerval, quel est le pouvoir de nos voisins européens dans les prises de décision? Parce que finalement, ces problèmes nucléaires concernent tout le monde.
C'est de l'ex du relex. Michel Rivasi s'en souviendra probablement. Le débat qu'on a eu sur les déchets nucléaires au Parlement européen, et notamment où on avait réussi à obtenir un changement de base réglementaire, c'est très technique, mais à l'époque, il y avait eu une bataille homérique, parce que la France voulait faire reconnaître qu'un déchet nucléaire, vu qu'il était potentiellement réutilisable un jour, n'était plus un déchet nucléaire. Donc cette bataille-là, on l'a gagnée au Parlement européen. Malheureusement, les méandres font que derrière, il y a un traité qui est au-dessus du traité européen qui a été signé avant, qui est le traité Euratom, qui aujourd'hui ne permet de modifier l'intégralité des règles européennes sur ce point-là que s'il y a unanimité. Or, aujourd'hui, dans l'Union européenne, vous avez 14 États membres qui font du nucléaire et vous avez 14 États membres qui n'en font pas. Vous avez un État membre qui est un qui pousse énormément sur le nucléaire, qui est la France, secondé par le Royaume-Uni, et vous avez un État qui est un État ami pour nous, je ne sais pas combien de temps il va le rester, mais ça pour d'autres raisons politiques, qui est l'Autriche, qui a aujourd'hui interdit toute modification des traités allant pro-nucléaire, et la France qui interdit tout traité qui est allant anti-nucléaire. Donc vous avez une situation qui, au niveau européen, garantit le statu quo. Néanmoins, nos voisins s'inquiètent forcément de ce qui peut se passer, et notamment parce qu'on a beaucoup de centrales frontalières, que ce soit Cattenom pour le Luxembourg, que ce soit Fessenheim pour la Suisse et l'Allemagne, mais on peut parler aussi de Gravelines, avec des problématiques qui sont très particulières pour la Grande-Bretagne et la Belgique, mais dans le même temps, vous avez la Belgique qui a des centrales qui ne sont pas forcément en meilleur état que les nôtres, voire je dirais même pire. Ouais. Donc cette problématique de notre voisinage devra se régler forcément par une garantie financière. Et ça va être quelque chose qui va être extrêmement important. Et puis, il faut à un moment le régler par l'Union européenne de l'énergie. Et ça, c'est un sujet qui reste bloqué. Et notamment parce que les États pro-nucléaires ne veulent pas en entendre parler, puisque ça veut dire la fin du nucléaire.
Roland Desbordes, on a l'impression donc qu'il est très difficile de faire bouger les choses quand on parle du nucléaire, et ce, que l'on soit scientifique comme vous, journaliste d'investigation comme Jean-Baptiste Renaud, ou un homme ou une femme politique. Pourquoi, selon vous?
Alors, il y a l'international et le national. Nous, je vais surtout parler de la France. C'est vrai que, mais on est une exception mondiale dans son organisation. Vous avez en même temps un État qui est actionnaire du nucléaire, qui lui a intérêt, évidemment, en tant qu'État, à développer le nucléaire, etc. Mais en même temps, l'État, il est régalien, c'est lui qui est censé faire les lois de protection pour les populations face aux risques nucléaires. C'est l'État qui fait les règlements. C'est l'État qui, etc. Donc, on a une schizophrénie, ou je dirais un conflit d'intérêts, pour être plus clair, au plus haut niveau. C'est pour ça que quand vous attaquez du côté politique, du côté économique, etc., vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. On n'est pas dans un jeu transparent. On ne sait pas qui tire les ficelles, qui a intérêt, qui, etc. On a, depuis 86, en apparence, les choses ont un peu changé. Dans les faits, elles n'ont pas changé du tout. On est toujours dans le même déni, je dirais, de démocratie. Puisque quand on veut avoir des informations, les vraies informations, je ne parle pas de la com, hein, on a toujours autant de difficultés pour les avoir. Est-ce qu'on a la possibilité d'influer sur des choix qui nous concernent, par exemple sur les aliments qui seraient commercialisés en cas d'accident nucléaire ? Bah non, on a essayé de le faire, l'Europe a décidé un règlement, Michel le sait très bien, etc. Donc on n'a pas vraiment avancé, c'est pour ça que... mais je pense qu'on a une structure au niveau international qui a été bâtie comme ça, c'est l'AIEA au niveau de l'ONU, c'est Euratom. Euratom, c'est un traité européen qui a été traité, signé en 57, et on fait comme s'il ne s'était rien passé depuis 57 dans le nucléaire. Il y a quand même eu des événements qui devraient remettre en cause ce traité qui a pour article 1, l'objet de ce traité, c'est de développer l'énergie nucléaire en Europe au moindre coût. On a tout compris. C'est bien au moindre coût qu'on essaye de le faire, de faire courir des risques aux riverains des centrales nucléaires, etc., de ne pas faire les travaux indispensables pour continuer à rouler. Voilà.
Bien, écoutez, merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci aux équipes techniques de France Bleu Provence qui assuraient la liaison avec vous, Roland Desbordes. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. À la technique et à la réalisation, c'était Richard Rifono et Jérémy Besset. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Carrefour.